création on air. On air. On air. Creation on air.
Ce soir, naissance d'un projet nommé Sound Factory, avec l'intention de faire entendre les sujets et formes imaginés par des étudiants actuellement en école d'art. Nous avons choisi un thème, le flux, et donner la couleur avec une citation de Jean-Paul Galibert tirée d'Invitation philosophique à la pensée du rien. L'hypermonde, en toute chose, préfère le flux. Le flux est la série d'échanges. L'objet y passe du statut de substance à celui d'évanescence. Ce soir, nous avons rendez-vous à 23h30 avec Baptiste Le Chaplin-Trivier et son ensemble rayé. Maintenant, programme court, imaginé par Cyprien Dérez et Mathias Cabanis pour Sound Factory.
France Culture, avec l'émission Création on Air, propose aux artistes des écoles d'art d'imaginer une création radiophonique de 27 minutes sur le thème du flux. Les jeunes artistes sont invités à soumettre une proposition de création sonore radiophonique originale et personnelle.
Les projets retenus seront ensuite élaborés dans des conditions professionnelles. Le porteur de projet sera accompagné tout au long de la réalisation par un chargé de réalisation et un ingénieur du son de Radio France.
Merci Mathias et merci Cyprien qui êtes les premiers à augurer de ce cycle qui j'espère sera pérenne, Sound Factory, qui s'intéresse effectivement à ce qui se passe dans les écoles d'art en France. Alors vous venez de quelle école ?
Des Beaux-Arts de Caen.
Comment est-ce que le projet vous est arrivé ?
Depuis un an et demi à peu près, j'organisais des soirées lecture à Caen où justement j'avais tendance à inviter des amis très souvent, pas chez moi, chez d'autres amis, et on se rassemblait autour d'une table basse, je sais pas, avec quelques verres et des livres. Et chacun était invité à lire des extraits de textes qui lui avaient plu. Dans ces soirées-là, il y a notamment Mathias qui est venu à plusieurs reprises, et moi j'avais cette volonté de sortir du lieu privé et d'aller dans un espace public pour continuer ces histoires de lecture. Et Mathias, qui lui fréquente les lavomatiques pour des raisons
techniques.
On a couplé finalement ces deux intentions.
C'est un peu une rencontre entre deux intentions. Moi, j'avais déjà une pratique de lecture dans mon travail aux Beaux-Arts, de lecture performée, et j'avais aussi cette envie de faire sortir cette pratique qui était vraiment pour le coup réservée dans le cadre de ce que je produisais à l'école. Le faire sortir de l'école, et je me disais comment trouver un lieu qui s'y prêterait, comment trouver un lieu qui en même temps soit lieu d'attente et puis qui soit aussi propice à la lecture. Donc je me disais j'ai cherché un lieu dans lequel les gens venaient souvent accompagnés de livres, et c'est comme ça qu'est arrivée l'idée du lavomatique. Et puis en effet, comme Cyprien le disait, on s'était déjà rencontrés lors de ces soirées lecture, et on s'est dit faisons ça ensemble. On a tous les deux cette envie de faire sortir cette passion et cette.
Alors c'est là où il est possible de mesurer la grande dureté avec laquelle nous gérons ce projet. Il avait bien été écrit un porteur de projet, et en fait vous êtes deux. C'était impossible qu'un seul vienne à Radio France pour développer ce projet avec nous, avec Marie-Laure Ciboulet.
Je crois que c'est un problème récurrent chez les étudiants en école d'art, c'est qu'ils ont tendance à déroger aux règles. Et malheureusement, on a continué sur cette idée-là. Mais à deux, je pense qu'on forme un binôme forcément, et plutôt un bon binôme où on n'a pas les mêmes intérêts de lecture et on n'a pas non plus le même contact avec l'autre qui est l'autre habitant de la laverie.
Donc on comprend qu'on va aller probablement dans une laverie, à vous entendre. Je n'ai pas du tout envie d'en dévoiler plus. Ce qui m'intéresserait plus de savoir, c'est qu'est-ce que Radio France finalement apporte à votre projet que vous n'auriez pas pu faire à Caen ?
Petit à petit, donc ça faisait longtemps qu'on avait cette pratique de lecture en laverie, et puis on avait l'envie aussi de garder des traces de cette chose-là. Et on a commencé une ou deux fois à enregistrer ce qu'on avait produit à ce moment-là. Et moi, c'était un médium qui m'intéressait beaucoup, le médium radiophonique. Et c'est vrai que quand le projet est apparu, c'était un peu comme une évidence. C'est-à-dire que je me suis dit, ça y est, c'est le moment où enfin cet enregistrement va pouvoir prendre une forme concrète et va pouvoir être diffusé surtout. Et pour moi, c'était cette question de diffusion qui était aussi importante.
Alors, il y a effectivement France Culture, mais il y a aussi tous nos auditeurs qui vont maintenant découvrir votre travail.
Il n'y a pas grand monde. Il y a deux machines qui sont lancées. T'envoies la 12?
Ouais. Programme court.
De Mathias Cabanis et Cyprien Derez.
Bonjour monsieur.
J'introduis juste notre présence. On est étudiant en école d'art à Caen.
Ouais.
Et bah, assez fréquemment, on propose des lectures en lavomatique.
Alors, si vous permettez, je vais faire ma
lecture. Ouais. Et vous venez tout le temps dans cette laverie?
Ouais, bah, moi c'est tout simple. J'habite juste à côté en fait. Et la machine est en panne. C'est bête, hein. Et du coup, je suis forcé à venir ici. C'est pas quelque chose que je fais de bon cœur, mais sinon mon ami peut m'en vouloir si je veux. Donc je suis obligé.
Vous avez choisi celle-ci plutôt qu'une autre ou à chaque fois
qu'il y a... J'ai choisi celle-là parce que c'est la plus proche de la maison. Et mais je sais pas, il y a une atmosphère, une ambiance particulière toujours dans une laverie. Et j'aime bien l'odeur.
L'odeur de...
Oh, ça doit être la lessive. De la puissance. Ah, en plus, vous avez du romain garé. Mes parents m'ont appelé Romain, en fait. Grâce à lui.
Vous l'avez lu, alors?
Non. C'est tout le drame de mes parents, juste.
J'ai un court extrait de La promesse de l'aube de Romain Gary. Et donc il dit à propos de sa mère: elle tenait énormément à mes succès féminins. Elle y voyait manifestement un des aspects essentiels de la réussite terrestre. C'était pour elle quelque chose qui allait de pair avec les honneurs officiels, les décorations, les grands uniformes, le champagne, les réceptions à l'ambassade. Et lorsqu'elle me parlait de Vronsky et d'Anna Karenine, elle me regardait avec fierté, caressait mes cheveux et soupirait bruyamment avec un sourire de naïve anticipation. Peut-être y avait-il, dans le subconscient de cette femme, qui avait été si belle, mais qui vivait depuis si longtemps sans homme, un besoin de revanche physique et sentimentale qu'elle demandait à son fils de prendre à sa place. Voilà.
Merci pour l'extrait.
Bon, à tout à l'heure.
Il y a un petit peu de poésie. Un petit peu de poésie contemporaine. Vu que tu parlais de la mère, je vais parler du père. Et, au revoir. Et du père écrivain. Alors c'est un poème de Charles Penquin. Un poème de Charles Penquin dans Pamphlet contre la mort, qui s'appelle Les petits mots. Je cherche mes mots, mes petits mots. Venez! Venez les petits mots, venez à moi mes petits mots à moi, ils doivent en rester là, en creux, tout contre moi, venez vous blottir, venez même dans moi les petits mots, restez cachés, restez dedans les petits mots, ne partez pas dehors, restez noués, tassez-vous bien au fond de ma gorge, dans les tréfonds de moi, dans les organes, l'organe d'une voix, la petite voix, tout entassée, restez tassés les petits mots, ne sortez pas. N'allez pas vous montrer, restez avec papa. C'est le papa des petits mots qui vous parle. C'est votre petit papa, les petits mots. Et qu'est-ce qu'il a dit, papa? Il a dit quoi, le papa des petits mots? Il a dit de rester là, bien sagement, tranquille. Restez tranquille, mes petits mots à moi. Tout contre, tout doux. Oui, comme ça, oui, c'est bien. Tout doucement, dodo. Fais dodo contre papa, les petits mots. Papa va vous raconter une histoire.
Papa va parler à ces petits mots. Papa a des choses à leur dire. Papa va vous endormir. Dodo les petits mots. Allez.
Vous habitez de quartier, est-ce que très souvent vous voyez du monde finalement ici dans ce lavomatique?
Ah oui, c'est un quartier déjà où on rencontre plein de gens, on se connaît tous.
Vous connaissez beaucoup de gens?
C'est familial, c'est. Voilà, tout le monde connaît tout le monde. En plus, j'ai un petit chien, alors ça fait faire des rencontres aussi. Et voilà, c'est un quartier sympathique. Et puis bon, sinon moi je viens la semaine parce que le week-end il y a tout.
C'est ça?
Oui, c'est mieux. C'est-à-dire que c'est surtout qu'à prendre et débarrasser. Parce que c'est vraiment la corvée. Et là, en fait, je viens pour une personne âgée.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Quand je viens pour moi, c'est parce que ma machine ne marche plus.
C'est mauvais signe, alors, dans ces cas-là. Et vous choisissez, je sais pas, je me demande qu'est-ce qui pousse un habitant à choisir plutôt ce lavomatique plutôt qu'un autre. C'est juste une question de proximité.
Voilà, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, je suis rue du Mont-Cenis. Donc, j'ai juste à descendre. Ou par contre, après, il faut remonter. Quand même. Avec le linge.
Avec le
Un extrait de texte de Romain Gary, Les Racines du Ciel. C'est bien simple. Les chiens, ça ne suffit plus. Les gens se sentent drôlement seuls. Ils ont besoin de compagnie, ils ont besoin de quelque chose de plus grand, de plus costaud. Ils ont besoin de quelque chose de plus grand, de plus costaud, sur quoi s'appuyer, qui puisse vraiment tenir le coup. Les chiens ne suffisent plus, les hommes ont besoin des éléphants. Alors je ne veux pas qu'on y touche. Je sais pas si vous, madame, votre chien vous suffit, et dans ce cas-là, tant mieux.
Oui, ça ira.
Ça ira. Vous avez pas besoin d'un éléphant à Paris
Non, madame.
Très bien. Excusez-moi, madame. Je me permets de vous interpeller juste pour vous faire part de l'expérience qu'on tente de mettre en place. On est étudiant en école d'art à Caen et on se propose en fait par plaisir de passer du temps dans les lavomatiques et tout ce que ça peut impliquer, notamment le bruit, la lumière du néon cru et toutes ces choses-là, et le fait qu'on soit en quelque sorte en vitrine en train de laver notre linge en public. Enfin, il y a des choses comme ça qui nous amusent beaucoup. Et on se propose de faire des lectures comme ça à voix haute. Et très souvent, on invite les gens à lire une partie de texte ou de quelque chose qu'ils ont sur eux, que ce soit un magazine, même presque un email, enfin, finalement, peu importe, juste pour le geste de partage et d'échange comme ça. Donc si ça vous fait plaisir de venir lire ne serait-ce que deux, trois phrases.
Alors,
c'est vrai?
Ouais, donc malheureusement, j'ai pas eu tout le temps de dire quelque chose.
Aucun souci.
Voilà.
Bonne journée.
Je vais continuer sur l'espace public et l'espace parisien avec un petit extrait de Georges Perec et de la tentative d'épuisement d'un lieu parisien. On est en plein dedans. Alors, je vais lire le chapitre 2. La date, 18 octobre 1974. L'heure, midi 40.
Je crois qu'il faut que vous restiez appuyé.
Le lieu,
non,
café de la mairie.
Non.
Plusieurs dizaines,
il vous reste une minute,
plusieurs centaines d'actions simultanées, de micro-événements, donc chacun implique des postures, des actes moteurs, des dépenses d'énergie spécifiques. Discussion à deux, discussion à trois, discussion à plusieurs.
Vous avez besoin d'un coup de main, madame ?
le mouvement des lèvres, les gestes, les mimiques expressives. Mode de locomotion, marche, véhicule à deux roues, sans moteur, à moteur, automobile, voiture privée, voiture de firme, voiture de louage, auto-école, véhicule utilitaire, service public, transport en commun, car de touriste, mode de portage, à la main, sous le bras, sur le dos, mode de traction, cabas à roulettes, position du corps, être assis, dans les autobus, dans les voitures, dans les cafés, sur les bancs, être debout, près de l'arrêt d'autobus.
Au revoir, monsieur.
Au revoir.
Merci.
Devant une vitrine, à côté d'un taxi. Trois personnes attendent près de l'arrêt de taxi. Il y a deux taxis. Les chauffeurs sont absents. Tous les pigeons se sont réfugiés sur la gouttière de la mairie. Un 96 passe. Un 87 passe. Un 86 passe. Un 70 passe. Accalmie. Il n'y a personne à l'arrêt des autobus. Un 63 passe. Un 96 passe. Une jeune femme est assise sur un banc en face de la galerie de tapisserie. La demeure. Elle fume une cigarette. Il y a trois vélomoteurs garés sur le trottoir devant le café. Un 86 passe. Un 70 passe. Des voitures s'engouffrent dans le parking. Un 63 passe. Un 87 passe. Il est 1h05. Une femme traverse en courant le parvis de l'église.
Monsieur, on aime bien inciter les gens à venir proposer peut-être un morceau de texte, une brique. En fait, on se disait que ce serait chouette d'avoir une autre langue que le français. Alors je sais pas si vous avez peut-être même un début de chanson ou de poème en tête.
Comment dire, chanson de grand, grand, dans tout l'Iranien, Monsieur Ravami. Très connu en Iran.
Ok.
Je ne chante pas très bien, mais je connais.
C'est un plaisir de toute façon de vous avoir.
Shabi kavan zeneye to shanidam chahuye teshne peye to davidam davan davan طالب چشم رسیدم تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی از آن بهشت پنهان دری نمی گشایی دل من سرگشته تو نفسم آغشته تو به بام رویاها چو گلت بویم دخاب و بیداری سخنت گویم تو ای پری کجایی.
Merci monsieur. C'est super. Je vous remercie monsieur.
Merci pour ça, c'est vraiment, c'est très très incroyable.
Merci beaucoup de votre...
J'aime beaucoup. Toujours je suis réfugié, mais je me sens français aussi, iranien. Merci beaucoup.
Je vous laisse continuer votre machine.
Est-ce que vous voulez de l'aide, madame, pour plier votre...
Non, ça va aller.
D'accord.
Ça me fait penser à quelque chose. J'essaie juste de le retrouver.
Dans les lettres personnelles.
Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est ça. C'est, j'adore ce passage. C'est dans la lettre 24. Une lettre que Rika envoie à Iben. Nous sommes à Paris depuis un mois et nous avons toujours été dans un mouvement continuel. Il faut bien des affaires avant qu'on soit logé, qu'on ait trouvé les gens à qui on est adressé et qu'on se soit pourvu des choses nécessaires qui manquent tout à la fois. Paris est aussi grand qu'Ispahan. Les maisons y sont si hautes qu'on jurerait qu'elles ne sont habitées que par des astrologues. Tu juges bien qu'une vieille bâtie en l'air, qui a 6 ou 7 maisons les unes sur les autres, est extrêmement peuplée. Et que, quand tout le monde est descendu dans la rue, il s'est fait un bel embarras. Tu ne le croiras peut-être pas. Depuis un mois que je suis ici, je n'ai encore vu marcher personne. Il n'y a point de gens au monde qui tirent mieux parti de leur machine que les Français. Ils courent, ils volent. Les voitures lentes d'Asie, le pas réglé de nos chameaux les ferait tomber en syncope. Pour moi, qui ne suis pas fait à ce train, et qui vais souvent à pied sans changer d'allure, j'enrage quelquefois comme un chrétien. Car encore passe qu'on m'éclabousse depuis les pieds jusqu'à la tête. Mais je ne puis pardonner les coups de coude que je reçois régulièrement et périodiquement. Un homme, qui vient après moi et qui me passe, me fait faire un demi-tour. Et un autre, qui me croise de l'autre côté, me remet soudain où le premier m'avait pris. Et je n'ai pas fait 100 pas, que je suis plus brisé que si j'avais fait 10 lieues.
Excusez-moi, mesdames, si vous avez envie de lire un livre ou l'extrait de texte que vous aviez tout à l'heure en main.
Ah oui, vous avez un livre d'Émile Mankel.
Oui.
Je vous lirai bien un poème d'un
c'est
ami
vrai.
À moi.
Ah, mais voilà. Avec grand plaisir.
Voilà, c'est un texte d'un poète qui s'appelle Ivar Schwavard, qui est un poète qui vit à Amiens. Alors je ne vais pas le lire très bien parce qu'en fait c'est écrit en vers justifiés, c'est-à-dire que c'est des vers qui ont tous le même nombre de signes. C'est difficile à passer à la lecture.
Okay, oui,
je vais vous le lire quand même. Voilà. Donc c'est extrait d'une lettre. 25 décembre. Parlons maintenant de cette beauté que tu ne vois pas. Je la vois, moi, ne t'inquiète pas. Barbouillé sur ton visage et pendu dans ton allure, si ça peut dédramatiser l'approche que j'en parle comme ça. Mais je te l'ai écrit déjà, ça ne date pas de 3 mois que je la vois, cette beauté-là, mais de pas mal d'années. Sache que même quand elle se cache, je la vois, elle me trouve les yeux. Même quand elle se dérobe et se faufile dans les coins, qu'elle ne veut pas qu'on la remarque, je la vois, moi. La tienne n'est pas facile à planquer, mais quand même, tu essaies. Mais je vois la beauté, moi, c'est ma spécialité. Je suis sensible au beau. La beauté est la chose qui de loin m'émeut le plus au monde. Elle me bouleverse, que ce soit au cinéma, où j'écoute un disque, où je regarde en l'air ou en bas les nuages, les arbres ou les flaques, ou droit devant ou sur les côtés. Aussi, je marche sur tel trottoir. Je ne pensais à rien de particulier et je la vois soudain, sur un visage, la beauté. Quelquefois, et même souvent, et même très souvent, elle est déchirante. Sûrement parce qu'elle est trop belle, la beauté. On sait qu'elle va se perdre, être perdue, qu'elle ne peut durer. Elle est liée aussi au fait que tout soit fini. Ce que je veux dire, c'est que tout doit disparaître, et un jour, c'est la lumière du crépuscule qui passe sur cette beauté, on l'a compris, que ça va bientôt, très bientôt être fini pour elle. Elle va passer derrière l'horizon et on ne la verra plus jamais. C'est terrible que la beauté soit finie et qu'elle ne vienne que pour s'en aller. Non, c'est terrible. Et c'est pourquoi ça nous déchire quand on la voit.
C'est cette histoire de poésie et de... Au revoir, madame. Cette histoire de poésie et de la manière avec laquelle on peut la penser, enfin, ça m'incite à lire un extrait de texte de Friedrich Nietzsche. croyance à l'inspiration. Les artistes ont quelque intérêt à ce que l'on croit à leur intuition subite, à la prétendue inspiration. Comme si l'idée de l'œuvre d'art, du poème, la pensée fondamentale d'une philosophie, tombait du ciel tel un rayon de la grâce. En vérité, l'imagination du bon artiste ou penseur ne cesse de produire du bon, du médiocre et du mauvais. Mais son jugement, extrêmement aiguisé et exercé, rejette, choisit, combine. Quant à celui qui est moins sévère dans son choix et s'en remet volontiers à la mémoire reproductrice, il pourra, le cas échéant, devenir un grand improvisateur. Mais c'est un bas niveau que celui de l'improvisation artistique au regard de l'idée choisie avec peine et sérieux pour une œuvre. En attendant Godot, de Samuel Beckett. Je fais simplement l'introduction. Route à la campagne avec arbre. Soir. Estragon, assis sur une pierre, essaie d'enlever sa chaussure. Il s'y acharne des deux mains. En ah non. Il s'arrête à bout de force, se repose en allaitant. Recommence. Même jeu. Entre Vladimir. Bonjour. Bonjour madame. Comment ? On est deux étudiants à l'école d'art de Caen, en Normandie, et on a une certaine tendance à faire des lectures en lavomatique. Et à inciter
des gens à lire des trucs.
Exactement, des gens à lire des trucs.
Lavomatic blues.
Comment ?
Lavomatic blues.
Lavomatic blues, vous dites ?
Ouais, moi je dis ça, surtout dans cette démarche. Non, mais le lavomatic, c'est un endroit très intéressant. Déjà des gens qui n'ont pas l'espace ou les moyens d'avoir une machine. Donc c'est pas tout le monde, hein. C'est une catégorie de personnes modestes, très modestes.
Modestes, ouais, modestes, voire très modestes, vous dites.
Alors, très modestes. Et ils se disent des choses, moi j'ai toujours des discussions super intéressantes dans les lavomatiques, justement sur le fond des choses en fait, même si c'est sur un mode. Un mode pas profond, mais ce qui se dit est simple, sans des
sincère.
Sincère. Puis bon, c'est vraiment les gens dans leur quotidien.
Bonjour monsieur. Et vous choisissez tout le temps ce lavomatique ?
Non. En fait, c'est pas dans celui-là que je vais. Généralement, rue du Baigneur, qui est le moins cher du quartier, et qui est beaucoup plus petit. J'y vais depuis des années, mais là, il est en réparation. L'avantage du lavomatique, c'est que vous partez avec des fringues sèches. Vous n'avez pas besoin de repasser. L'espace qu'il faut pour faire sécher à chez soi, ça prend de l'espace longtemps. Alors vous allez étendre, imaginez des draps sur une machine, dans un studio, après tu restes sur ta chaise.
Vous ne pouvez plus dîner.
Bah, vous ne pouvez plus rien faire. Et effectivement, vous ne pouvez pas dîner non plus. Si vous dînez, vous avez l'odeur de. Si vous faites la cuisine, vous avez l'odeur dans la linge propre. Il vient bien s'imprégner.
Le responsable de ça, ça peut.
C'est pas ordinaire, il y a un numéro de téléphone à appeler.
Non, 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 moi je suis gérant de la rue. En fait, vous ne pouvez pas rester.
Mais ça ne gêne personne, si.
Non, non, mais je sais, non, mais c'est même pas moi que. Ouais. C'est même pas moi, c'est les gens d'immeuble qui m'ont appelé. Donc...
Vous dire quoi ?
Parce que normalement, moi, je dois demander une autorisation à mon propriétaire pour demander à la copropriété. D'accord, mais c'est un casse-couille.
Ben, j'allais vous le dire, hein.
Voilà. Ok, ben, on va manger. Ben, merci de nous avoir invités. Je vous souhaite une bonne journée.
T'as d'urgence.
Au revoir, monsieur. Bonne journée.
Pour égayer l'espace du lavomatique, je propose un texte de Pierre Desproges, issu du manuel de savoir-vivre à l'usage des rustres et des malpolis. Comment se suicider sans vulgarité ? L'un d'eux, je ne sais plus si c'est Jean-Henri Fabre ou Walt Disney, a cru voir un scorpion se suicider en se pinçant frénétiquement la queue jusqu'à ce que mort s'en suive. Peut-on sérieusement parler de suicide ? Pour le savoir, pinçons-nous frénétiquement le genou, puisque nous n'avons point de queue. La mort s'ensuit-elle ? Que ne nie ? Alors, pourquoi le scorpion meurt-il ? Parce que le scorpion crache son venin par le bout de la queue, alors que l'homme mange très proprement avec une fourchette ou des baguettes, s'il est batteur ou chinois. La mort du scorpion n'est point un suicide. Elle est purement accidentelle, car le scorpion, contrairement à mon beau-frère qui est gémeaux, ne sait même pas que sa queue est venimeuse.
Programme court. Une création en air de Mathias Cabanis et Cyprien Derez.
Équipe de production, Guillaume Ledu, Marie-Laure Ciboulet, Inès De Bruyne, Irène Omelianenko. Merci aux utilisateurs du Lavomatique.
Dans Création en Air, ce soir, une aventure, une expérience avec des étudiants, une aventure qui devrait être au long cours, avec un nom de code, Sound Factory. Seconde proposition ce soir, nommée Ensemble rayé, faisceau aveugle, et qui répondait à une proposition sur le thème du flux.
Pour cette création, j'ai décidé de mettre en place un dispositif fait avec des lecteurs CD de salon classique, où mon idée était de former une sorte d'orchestre à l'aide de CD rayés.
Alors qu'est-ce que ça a donné au moment de l'enregistrement ? Vous êtes arrivé à Radio France avec ce projet, Marie-Laure Ciboulet vous a accompagné, et vous êtes arrivé avec du matériel avec...
Oui, en fait, je suis arrivé avec des CD préparés à la même manière qu'on a des guitares préparées, des pianos préparés. Et en gros, les CD, je les raye pas véritablement, je mets des petits morceaux de scotch dessus qui me permettent de pouvoir les préparer de manière différente sans les rayer de manière définitive. Du coup, j'avais un ensemble d'une vingtaine de CD avec lesquels je pouvais jouer. Et donc on a dû faire tout autour de cette première expérience, qui est l'expérience d'enregistrement, qui mettait en place toute une sorte de micro-événement, et surtout travailler et de micro, ou pas si micro que ça, mais des accidents. C'est de travailler autour d'accidents et de les utiliser comme matériaux.
Alors ce projet, est-ce que vous en avez parlé dans le cadre de votre école, que vous ne nous avez pas présenté du reste?
Oui, alors oui, je suis à la Villa Arson à Nice, qui ma foi est une très belle école, depuis 5 ans, donc c'est mon année de diplôme. En fait, c'est un projet sur lequel j'avais commencé à travailler, en effet, dans le cadre de l'école, mais je suis venu à cette idée de rayure via la peinture. Et c'est grâce à ça que j'en suis venu à utiliser aussi les sons en parallèle. Finalement, c'est des images de rayures.
Alors, à quoi avez-vous pensé sous votre douche hier?
C'est vrai que j'ai pas mal d'idées dans la douche. Mais hier, j'ai peut-être pas pris ma douche d'ailleurs, je crois.
Tout à l'heure, vous m'avez dit, j'avais plein d'idées sous ma douche hier.
Ou alors j'ai tout oublié, ou alors c'était avant-hier, mais ce que j'ai, je pense à quoi j'ai pensé, c'était en réécoutant au final un peu la maquette de ce qu'on avait fait, c'était surtout à des histoires de fantômes, à des histoires d'apparitions, avec les sons qui peuvent en même temps construire un espace, s'organiser, se désarticuler. Pour moi, c'est comme une espèce de petite danse de fantômes ou de spectres qui s'entrechoquent les uns les autres.
Ensemble rayé, faisceau aveugle, Baptiste le chapelain Trivier.
Travail efficace et rapide, 100% réussite garantie. Ne restez pas dans l'angoisse. Pas de problème sans solution. Suis réputé pour trouver une solution à tous les problèmes vous empêchant de dormir, même les cas désespérés. En tout cas, à côté des rituels d'épreuve, à côté des cautions données par l'autorité et la tradition, à côté des témoignages, mais possédé, peu est devenu en oxyvalorisé.
Il déclara porter lui-même des tares épileptiques. Dès son enfance, il attirait l'attention de ses proches par ses caprices, son entêtement, ses accès de colère violents et convulsifs. Des troubles névropathiques divers marquent sa puberté. Des migraines et des gastralgies qui apparaissent chez lui à cette période ne le quitteront plus désormais. Son affectivité se trouve désaxée après sa dernière mésaventure amoureuse. Ces tendances psychiques ou passionnelles subissent une exagération pathologique.
Le commerce et les entreprises, pas de fausses promesses. Travail efficace et rapide, 100% réussite garantie. Ne reste pas dans l'angoisse. Pas de problème sans solution. Suis réputé pour trouver une solution à tous les problèmes vous empêchant de dormir, même pas de l'inspirer. À ses parents, à ses éducateurs,
à la nature,
à son médecin, à ce qu'on
semblable au duvet,
se fait à soi-même,
semblable à la pensée,
à le plaisir et la peine,
et semblable aussi en quelque manière au globe de la terre,
les aveux impossibles à tout autre, et donc on fait des livres.
À la nature,
qui était s'entendre, et de
souvenir,
une métamorphose de la littérature.
Semblable à la nature,
une métamorphose
semblable
de la littérature,
à la nature, semblable
plaisir de raconter
à la nature,
et dans
à la nature, à la nature, à la nature,
plaisir de société, et plaisir de
semblable
au duvet,
semblable à la pensée, et semblable aussi en quelque manière au globe de la terre, semblable à l'erreur, à la douceur et à la cruauté,
comme la tendresse la plus désarmée,
à ce qui n'est pas vrai, n'arrête pas,
des pouvoirs,
à la tête d'un clou enfoncé.
Simplement autour d'eux, avec pour seul repère le goût du moment qu'ils vivent et les signes sur les murs. Comme en rêve, il lui montre un point hors de l'arbre. Il s'entend dire « Je viens de là ».
Les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide. C'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecins, il n'y aurait jamais eu de malades. Car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliéné pour couver doucement la mort et tenir en couveuse les morts. Pour cela, a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ. Cette technique thérapeutique de la mort longue. Et la médecine moderne complique en cela la plus sinistre et crapuleuse magie. Parce que c'est mort à l'électrochoc ou à l'insulinothérapie afin de bien chaque jour guider ces haras d'hommes de leur moi. Je vais les présenter ainsi vite, ainsi fantastiquement disponibles et vives aux obscènes sollicitations anatomiques et atomiques de l'État appelé Bardo.
On appelle cela faire chanter des images. Le principe, courant alternatif. Cette vieille ordure peut alterner douleur et plaisir avec un sous-vocal, et peut-être même, à un niveau moléculaire, 60 fois par seconde. Quelques chanteurs peuvent délivrer en direct le courant, mais nous ne les convoquons qu'en cas d'extrême urgence.
Maar in rechte bocht en in rechte lijn richting Glasgow te vliegen. zou ik bij het terugkomen het weer. Exact aan de toestand. Volgens de wens ik helemaal teruggevraagd. Genieten van de service.
En ik ben op deze lift de purser. En namens gezagvoerder Lisa Lada en zijn bemanning heet ik u ook heel hartelijk welkom aan boord van deze KLM-vlucht naar Glasgow. Bijzonder welkom op onze vlucht door het SkyTeam-leven. Wij zijn nu gereed voor het vertrek. En over enkele ogenblikken toont hij het veiligheidsvoorziening aan boord van dit vliegtuig. A very good afternoon, ladies and gentlemen.
Le même jour. Il ne sait plus. Réveillé, il lui parle encore. D'une vérité trop fantastique pour être reçue, il garde l'essentiel. Un pays lointain, une longue distance à parcourir.
Semblable à la nature. Semblable à la nature. Semblable à la nature, à la nature, à la nature, à la nature. Nature, à la nature.
Se frotte tranquillement les pattes dès qu'elles se posent, c'est pour des raisons de propreté. Pour ces insectes, qui traînent souvent dans des endroits sales, il est en effet nécessaire de se débarrasser des poussières et des pollens. Car leurs extrémités font office de véritables détecteurs et comptent plusieurs dizaines de poils sensoriels. Elles leur permettent de comprendre l'environnement, comme ressentir la température, les vibrations et donc les dangers potentiels, ou encore le vent, afin de maintenir leur équilibre en vol. Les mouches peuvent même se servir de leurs pattes pour goûter les aliments avant de les ingurgiter. Chez d'autres insectes, comme le cafard, ce sont les antennes qui servent de récepteurs et qui sont donc soigneusement nettoyées.
Les enfants prennent une orange, la jettent dans la mer et disent que le soleil se couche. Ensemble rayé, faisceau aveugle, une création de Baptiste Le Chaplin-Trivier. Extrait de William Burroughs, Michel Foucault, Antonin Artaud, Henri Michaud et Chris Marker. Équipe de production, Philippe Bredin, Marie-Laure Ciboulet, Inès De Bruyne, Irène Omelianenko.
Demain, à 23h, rendez-vous pour Poésie et ainsi de suite par Manu Farine, La semaine prochaine, Une veillée, par Marie Richeux et Véronique Lamandour. Le bureau de Dionis Mascolo, par Jean-Marc Turine et Dominique Costa. Tout de suite, début des Nuits de France Culture, avec Philippe Garbi.